Brège avec ta mère, on va louper le début.
Maman, je raccroche là, c'est... Non, mais c'est le début de la JT du local.
Et c'est sur l'autre radio. J'ai quelque chose à vous demander, dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu un clown pleurer? Bah non, hein, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, le clown, c'est de la pirouette, des grimaces, des tartes à la crème, mais un clown qui pleure, ou plutôt un clown qui vous regarde droit dans les yeux, sans filtre, sans masque, ce serait en fait un clown qui ne cherche pas en premier lieu à faire rire, mais à faire exister. Et là, je vous le dis, c'est autre chose. Aujourd'hui, on va parler d'espoir, pas de celui des publicités ou des discours électoraux, non. J'y tiens, l'espoir qui tient dans un regard, dans un geste, une présence, une promesse d'avoir quelqu'un auprès de soi. En tout cas, on va parler de l'espoir que portent les Grands Nez Rouges, une association pas comme les autres, puisqu'on parle de clown humanitaire. Et c'est bien sûr Sébastien qui va nous en parler aujourd'hui. Bonjour Sébastien, et merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour, c'est très gentil, merci pour l'invitation.
Humanitaire, c'est un mot qui mérite qu'on s'y arrête, puisque ça évoque plusieurs choses. Il me semble que votre rôle n'est pas de détourner l'attention, mais de la ramener à l'essentiel. Et donc, on en parle ensemble dans quelques instants. Et comme tous ces bons moments ensemble, et toutes ces rencontres, eh bien, j'aime bien ne pas les vivre seule. Ça tombe très bien puisque Maxime m'accompagne sur cette émission du lundi au jeudi. Bonjour Maxime, comment tu vas aujourd'hui?
Bonjour, ça va super, et toi Margot?
Eh bien ça va très très bien puisqu'on continue aujourd'hui notre découverte de la brasserie locale L'Arborescence avec Jean-François Guillery qui nous a accueillis à Saint-Georges-Butavant pour parler de son parcours. Aujourd'hui c'est le second épisode de cette série de reportages et il nous parle des différentes bières qu'il propose et de comment est-ce qu'il crée ses recettes. L'émission se termine avec une remontada, un mot qui sent la revanche, le sursaut, l'histoire qui refuse de s'écrire comme prévu, une bascule, un instant où tout peut changer. Et ça, Donatien, il adore et c'est pour ça qu'il nous en parle. C'est notre chronique du jour, vous le savez. Mais je vous le disais aujourd'hui, donc c'est votre émission quotidienne qui commence là maintenant et nous sommes en bonne compagnie puisque nous sommes avec Sébastien Gendry de l'association Les Grands Nez Rouges. Sébastien, je me suis dit qu'avant de parler de l'association, pour évoquer peut-être votre parcours, vous avez vécu en Équateur avec Raquel qui vous accompagne dans cette association en tant que clown également. Vous avez vécu en Équateur et en Californie pendant près de 30 ans et finalement ce sont ces expériences qui ont forgé quelque chose autour de l'engagement. Il y a une histoire avant celle de l'association finalement.
Absolument, donc dans ce genre de domaine, pour nous en tous les cas et comme beaucoup d'autres je pense, c'est une aventure humaine autant qu'un choix de vie. L'association a commencé, on s'appuie sur une pédagogie de 35 ans. Et ça a commencé il y a 35 ans avec Raquel Gendry qui a eu, étant jeune femme, une aventure assez traumatique puisqu'elle a été diagnostiquée à 21 ans avec une maladie grave. Ça s'est passé par une opération à cœur ouvert, 7 jours en thérapie intensive, sans savoir chaque jour si elle allait se réveiller le lendemain, et où plus de la moitié des patients autour d'elle sont morts. Qui lui a fait prendre l'importance du quotidien, de vivre l'instant présent, de la pleine conscience. Souvent, on dit qu'on pense son futur et on vit son passé. D'où l'importance de ce qui se passe dans notre vie, de nos pensées dans l'instant présent. Donc elle s'est dédiée à... Donc elle a été condamnée, on l'a condamnée, une jeune femme, à vivre sur une chaise en faisant aucune activité. Elle a choisi de dire que c'était l'opinion des docteurs, pas la sienne. Donc elle s'est lancée à fond dans sa passion qui était les arts de la scène. Elle a fait du cinéma, de la radio, du théâtre, de la narration orale. Et puis un jour, par hasard, elle a découvert des clowns. Et elle s'est dit, ah, c'est exactement ça que j'aurais voulu avoir quand moi j'étais à l'hôpital, dans le fond du fond de cette noirceur de l'âme.
Et alors c'est ça qui vous a donné envie de créer l'association Les Grands Nez Rouges?
Eh bien oui, les Grands Nez Rouges s'appuient donc sur cette pédagogie qui est née en Équateur, qui s'appelle Narices Rojas, les Nez Rouges en espagnol. L'association a été créée il y a 20 ans et a travaillé avec donc, une association de clowns humanitaires d'hôpital spécifiquement qui travaille en Équateur. Raquel a introduit ce concept du clown humanitaire en Équateur. Depuis 20 ans, ça fait 360 000 personnes.
Qui ont été donc accompagnés et aidés.
Ouais. Il y a une cinquantaine de volontaires. De la Californie, la vie nous a emmenés, parce que la vie est parfois pleine de détours surprenants en Californie. On a passé 20 ans en Californie. Et puis maintenant, à nouveau, détours surprenants pour des raisons familiales. Nous sommes arrivés en France et comme ça, pour nous, c'est un choix de vie à nouveau autant qu'une aventure humaine. Et bien, on a décidé de continuer ce qu'on a toujours fait.
Ce que je trouve intéressant, c'est que vous dites que vous ne cherchez pas à faire rire, mais à redonner espoir. Comment est-ce qu'on peut définir un clown humanitaire?
Bien, le nom vous dit tout. Le clown, c'est l'humain. La première mission du clown humanitaire, ce n'est pas de faire rire, c'est d'utiliser le rire comme outil pour se connecter avec l'humanité. On a l'avantage d'avoir... Alors, faut comprendre que le clown a cette grande force, ce n'est pas le seul, mais le clown a cette grande force, de par son nez rouge, son costume, et puis sa touche d'imprévisible, de créer un décalage instantané. Et donc, de diffuser les tensions, le stress, et d'ouvrir cet espace de légèreté et de jeu, donc de vie, donc d'espoir. Et c'est là qu'il y a de la magie qui se passe. Ça peut paraître simple, mais ce n'est pas simpliste.
Il y a une philosophie même derrière tout ça, puisque vous parlez du clown comme d'une manière d'exprimer une vérité intérieure.
Le clown, c'est le plus humain des humains. Celui qui s'accepte complètement, qui accepte ses zones d'ombre autant que ses zones de lumière. Mais principalement, c'est quelqu'un qui n'a pas de bagage du passé et pas d'attente du futur, qui vit l'instant présent, qui utilise tout un tas d'outils pour faire vivre la lumière que tout le monde a à l'intérieur. La première fois que j'ai accompagné, moi, des clowns d'hôpitaux à leur travail, c'était quasiment traumatisant. Vous savez, les hôpitaux, les lieux fragilisés ne sont pas exactement des lieux de villégiature. Et quand on voit des déformations, des gens qui pleurent parce que les proches se meurent, et que les clowns arrivent avec leur nez rouge, avec leur jouets, typiquement des poulets en plastique, des choses qui sont un peu décalées, et qui font naître des sourires dans des environnements. J'ai la gorge qui me noue parce que je trouve ça très joli. Il y a une force là-dedans qui est surprenante. Le message étant que peu importe où vous en êtes dans votre vie, il y a toujours de l'espoir. Tant que vous respirez, il y a de l'espoir.
C'est ce qui compte pour vous quand vous intervenez en EHPAD ou en pédiatrie. C'est là que vous intervenez principalement actuellement.
Actuellement, oui. Alors, on en parlait un petit peu avant l'émission. Je vais vous résumer le type d'expérience en un simple commentaire. Waouh, grand-mère rit à nouveau.
Ce sont des retours que vous pouvez avoir.
Typiquement, oui. En pédiatrie, ça va. Il y a un impact quantifiable. Ça est typiquement la relation personnel médical, docteur-patient, pour les enfants, pour la prise de piqûres, la prise de médicaments, ou simplement faire renaître l'espoir, amener une touche de jeu, de légèreté, permettre de transiter les émotions que l'on vit en lieu difficile de façon différente.
Comment se déroule une intervention justement des grands nez rouges? Parce que là, j'ai presque envie de voir, on a envie d'être
beaucoup,
la petite souris qui est là.
Beaucoup d'humanité. les clowns ont tout un tas d'outils à disposition qui sont le théâtre d'improvisation, le rire bien sûr, le rire, l'humour, le rire conscient, le jeu coopératif, la magie, le chant, la danse, les ballons, tout un tas d'outils qui permettent de faire naître ces instants de légèreté et de jeu. Donc ça se passe avec beaucoup de sourires et beaucoup d'humanité.
Puis j'imagine, parce qu'on parle justement d'EHPAD, de pédiatrie, on parle de personnes qui ont des parcours et qui sont en train de vivre des choses pas évidentes, mais pour chacun c'est différent, j'imagine. Justement, vous parlez d'improvisation, c'est intéressant, selon la personne que vous avez en face de vous, vous n'avez pas tous les codes de ce qu'elle est en train de vivre, mais vous devez quand même créer une connexion.
Oui, alors la différence entre le clown humanitaire et le clown est la suivante. Le clown, typiquement, agit dans le contexte du cirque, du spectacle, mais exagère tout et cherche à faire rire. Le clown humanitaire est techniquement un spectacle, une structure en tête. Le clown humanitaire, lui, il est fluide avec ce qui se passe. Et son objectif, comme je vous le disais plus tôt, ce n'est pas de faire rire, c'est d'utiliser le rire comme outil pour toucher l'humanité, faire renaître cet espoir, renaître cet instant de « ça ira mieux ». Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand ni pourquoi, mais là, tout de suite, je suis OK, c'est bien, et demain, ça sera demain. C'est magique. Donc le clown humanitaire a beaucoup plus d'outils et très fluide. Il n'y a pas de schéma arrêté. Ça dépend d'espace par espace. On joue avec ce qui se passe.
Et à la fois, l'improvisation, elle est toujours construite à partir de quelque chose. Est-ce que vous vous êtes construit un personnage, l'un et l'autre, qui reste un peu le même à chaque fois, ou est-ce qu'on repart à zéro à chaque fois?
Non, le clown, le clown humanitaire, c'est un professionnel du bien-être, des arts du spectacle typiquement, mais quelqu'un qui a suivi une formation spécialisée pour ce genre d'intervention, parce qu'à nouveau, c'est pas facile. Apprendre à se connecter avec la lumière et non pas l'obscurité, quand vous faites face à la douleur, à la mort, à des environnements lourds, ça prend un petit peu de pratique. C'est magnifique et merveilleux. Votre question,
c'était est-ce que vous avez un personnage fixe l'un et l'autre, ou est-ce que finalement on repart à zéro à chaque fois?
Non, mon personnage. Donc Raquel s'appelle Docteur Raqueta, moi je suis Docteur Yo-Yo. Nous sommes dans l'association 8 clowns, mais 3 clowns humanitaires.
D'accord.
Donc non, le clown est un personnage, on a construit, on a un costume, mais dans le déroulement de l'intervention, ça c'est très fluide en fonction des personnes avec qui on interagit, si elles sont cognitives ou pas cognitives, et de ce qui peut se passer.
L'association a été créée réellement donc là en janvier.
On vient de poser nos structures juridiques. Alors c'est là où vous dites ouais, effectivement, merci, c'est gentil. On est actif de façon informelle depuis 2023. Mais on a décidé de passer à la vitesse supérieure. Il y a une nécessité grandissante, pour ne pas dire importante. On vit en pleine crise de santé mentale, en pleine crise de déconnexion. Je lisais vendredi, dans la presse française, des études qui maintenant montrent que les gens se mettent en retrait social. Ont tendance à, plutôt que d'aller vers les autres ou passer du temps dans un réseau social, à regarder la télé, à rester tout seul. Je trouve ça dramatique. On a besoin des autres. Les humains sont des êtres grégaires. Quand on éprouve du stress ou des difficultés, le pire que vous puissiez faire, c'est vous isoler des autres. C'est aller vers les autres qui va vous aider à dépasser ces moments difficiles. Et les clowns apportent ces moments magiques, ludiques, joyeux d'espoir.
Et alors, pour que cette magie soit encore plus contagieuse, vous avez besoin de collaborer aussi avec des structures locales ?
Bah absolument. Donc, nous, c'est notre projet principal actuel de développer des collaborations avec des structures locales. Autant des structures qui souhaitent recevoir des clowns que des personnes qui croient en notre mission et qui veulent nous appuyer. Nous offrons une variété d'ateliers et de services en entreprise, entre autres. Ça peut paraître saugrenu, mais ça ne l'est pas du tout, des clowns en entreprise. Mais pourquoi faire? Parce que c'est pas les clowns, c'est l'art du clown, pour travailler la cohésion, la créativité, des valeurs qui sont utiles au quotidien.
Et alors, ces ateliers, justement, font vivre l'association, oui, pour ensuite intervenir auprès de ces publics fragilisés.
Eh ben, c'est
important de se dire, ben voilà, quand on fait appel à vous pour des ateliers, justement, en entreprise, en fait, on fait aussi un beau geste.
Absolument. On travaille sur un modèle collaboratif, c'est-à-dire que les endroits où les personnes qui bénéficient de nos interventions de clowns humanitaires ne payent pas. Les structures qui les hébergent paye ce qu'elle peut, et puis les dons et nos propres ressources complètent ce qui manque.
Vous recherchez des bénévoles? Des gens peuvent éventuellement vous soutenir?
Toujours avec le cœur grand ouvert. Alors, il y a différentes façons d'aider cette association. Lesgrandsnezrouges.org, en un seul mot au pluriel, lesgrandsnezrouges.org, sans espace. En commençant par parler de l'association, ça existe à Château-Gontier, dans le sud de Mayenne. En adhérant, et puis après, contactez-nous, ça dépend de si vous avez des aptitudes créatives, vous connaissez la couture, parfois les clowns ont besoin d'aide pour affiner leur costume. Si vous avez des contacts, si vous pouvez nous aider avec la communication, enfin, tout un tas de. On a trois grandes équipes de bénévoles, vous êtes les bienvenus, lesgrandsnezrouges.org, contactez-nous et on en parlera.
Vous intervenez sur... Donc là, vous êtes installé à Château-Gontier, mais vous intervenez jusqu'où, à peu près?
Alors, c'est le haut Anjou, du Lyon d'Angers jusqu'à Laval. Donc, Château-Gontier est en cœur, à peu près 30-35 km autour. Ça représente 120 000 personnes, à peu près.
On a parlé d'EHPAD et de pédiatrie. Est-ce qu'il y a d'autres structures qui peuvent vous contacter?
Absolument, nous sommes ouverts. Donc, en fait, l'idée, c'est tous les espaces fragilisés. Le stress, le gris, donc le stress, la douleur, la déconnexion humaine, n'est pas limité uniquement aux lieux fragilisés. Il y a la santé mentale, il y a les personnes en situation de handicap, il y a tout un tas d'environnements qui ne sont pas forcément... Il ne faut pas être en EHPAD ou en soins palliatifs pour dire, tiens, j'ai besoin, ou mes proches ont besoin d'un petit peu de lumière, un petit peu d'espoir, on va appeler les clowns.
Week-end dernier, vous étiez en intervention justement... Ah non, ce n'est pas dans une EHPAD, c'était un atelier que vous proposiez.
Alors, nous offrons des ateliers au grand public. Le samedi dernier, on fait ça tous les mois, ça s'appelle Détox émotionnel sur 3 heures. C'est un espace très simple, très, très ludique pour lâcher prise sur le stress et apprendre des techniques, je vais vous dire, scientifiquement prouvées, mais c'est l'évidence, pour développer ce bien-être. Parce que le bien-être, c'est un muscle. C'est un petit peu comme une douche. Une fois, ça ne suffit pas. Ça se pratique, ça se développe. Et on a tendance à oublier ça. Oublier, on vit dans un monde où beaucoup de personnes veulent de l'amour, mais peu veulent en donner. Peu veulent en donner. Alors qu'en fait, c'est quand vous donnez tout ce que vous donnez aux autres, vous le donnez à vous-même. Si je vous souris, la première personne qui reçoit ce sourire, parce que je suis prêt à le donner, c'est moi. Si je refuse de donner le sourire, je n'en ai pas. Et donc... Soyons millionnaires de sourires.
Sébastien, quel est le prochain rendez-vous pour l'auditeur de l'autre radio qui serait curieux, qui se dit tiens, cette détox, moi, elle m'intéresserait.
Oh là là, mais tout le monde a besoin d'apprendre le clown, ne serait-ce que les bases, non pas par, nécessairement pour devenir clown, mais pour apprendre à vivre ce bien-être, à vivre, à développer de la résilience. Prochaine étape, jeudi prochain. Ce jeudi, on commence un atelier de 10 semaines de clown, 10 rencontres toutes les deux semaines à Château-Gontier, lesgrandsnezrouges.org, et vous aurez tous les détails.
Merci à Sébastien d'avoir été avec nous, de nous avoir présenté l'association et de nous avoir raconté aussi votre parcours et celui de Raquel, que l'on salue. Merci beaucoup.
C'est un plaisir, on se reverra.
Oh, c'est certain, c'est certain, avec plaisir, ça fait du bien. Et donc nous, on va continuer l'émission, votre émission quotidienne, l'agité du local, et avec une petite pause musicale déjà. Maxime, qu'est-ce que tu nous proposes?
On va écouter l'orchestre Vienna Philharmonique avec Riccardo Muti.
C'est une séquence que je chéris tout particulièrement. Chaque mardi, il s'agit de la lecture de l'auditeur.
Dans ma vie, le centre du monde, c'est l'amour.
Mon record, c'est Les jeunes filles de Monterland que j'ai lu plus de 100 fois.
J'ai fait semblant plein de fois de discuter avec des gens en disant « Ouais, putain, j'ai l'usine quand même, ça c'est... » Mais en fait, j'ai pas...
Il y a des pages entières qui me hantent, des déclarations d'amour dont je me souviendrai toujours.
On n'a pas trouvé un nom tout de suite à cette séquence. Ce moment est simple et beau. Et c'est la lecture de l'auditeur.
Vous écoutez l'agité du local. Pour la lecture de l'auditeur aujourd'hui, c'est Lilou. Qu'est-ce que tu vas nous lire, Lilou ?
Je vais vous lire un texte sur les violences faites aux femmes.
C'est toi qui l'as écrit ?
Oui.
On t'écoute.
271 000 femmes, chaque année, tombent dans le cercle de la violence. 271 000, un chiffre froid. Un chiffre qui pourrait n'être qu'une statistique, mais qui est en réalité un cri tragique. Une mer de souffrances invisibles, de corps meurtris et d'âmes brisées. Elles sont là, parmi nous, invisibles aux yeux du monde qui détourne souvent le regard. Muets, face à l'inacceptable, mais leur silence n'est pas celui de la soumission. Il est celui de l'étouffement, celui qu'on leur impose encore et encore. Chaque chiffre est un visage et chaque visage est une histoire. Elle n'a pas choisi cette vie. Elle n'a pas choisi d'être ce corps martyrisé, cette voix effacée, ce regard éteint. Mais chaque femme victime d'abus, d'agressions, de maltraitance porte en elle une révolte silencieuse. Car la violence n'ôte pas leur humanité. Elle en réveille la force. Elle se relève, ces femmes, avec le fardeau de la honte qui n'est pas la leur. Avec la douleur d'un passé qu'elles n'ont pas choisi. 271 000 femmes en 2024, c'est trop. C'est insoutenable. C'est une injustice qu'il faut dénoncer, qu'il faut combattre, qu'il faut éradiquer. Mais au-delà du chiffre, au-delà des chiffres, il y a la réalité de leur combat. Un combat pour la liberté, pour la dignité, pour l'amour. Un combat pour que leur voix résonne enfin dans un monde où l'indifférence se fait trop souvent complice. Ces femmes ne demandent pas la pitié. Elles réclament le respect. Elles réclament le droit de vivre sans peur, sans chaîne, sans la menace d'un lendemain incertain. Elles réclament ce que tout être humain mérite. La liberté. Alors il est temps que la société, que chacun de nous se lève pour les écouter, pour les soutenir, pour leur offrir ce monde qu'elles méritent. Il est temps que les 271 000 femmes ne soient plus qu'un chiffre, mais un appel. Un appel à la fin d'un cycle de souffrance, un appel à la fin de l'ombre et à la lumière de l'égalité, de l'amour et du respect.
Merci Lilou, pourquoi tu as eu envie de nous partager ce texte-là?
Bah déjà parce que ça m'est venu pendant le mois des violences faites aux femmes en novembre. Et même si on en parle beaucoup, ça fait pas de mal d'en reparler encore. Et voilà, donc c'est un texte que j'ai voulu écrire, qui me touchait et qui me tenait à cœur.
Merci beaucoup. Hier, on découvrait le parcours de Jean-François Guillery et la philosophie qui anime la brasserie de l'Arborescence. Place maintenant à l'exploration du lieu lui-même, une brasserie. C'est bien plus qu'un atelier de production, c'est une ambiance, des choix de matières premières, une façon unique de faire les choses. Aujourd'hui, on pousse les portes de l'Arborescence pour comprendre ce qui en fait un lieu à part. Suivez-moi. Une brasserie, ce n'est pas juste des cuves, du malt et du houblon. C'est un lieu où tout a un sens, où chaque choix raconte quelque chose de celui qui l'a créé. À la brasserie de l'Arborescence, chaque détail a été pensé pour respecter un équilibre entre artisanat, environnement et exigence du goût. Aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses à la découverte de cet espace où les bières prennent vie, façonnées avec patience et engagement. Nous commençons le deuxième épisode de cette série de trois reportages. Le nom de ta brasserie, l'Arborescence, comment est-ce que tu l'as trouvé?
J'explique pas trop, c'est une petite voix qui me l'a soufflé dans la tête, je pense.
On en a parlé, mais la création de cette brasserie, c'est à partir de valeurs qui comptaient beaucoup pour toi. Est-ce que tu peux nous les rappeler?
On a une agriculture biologique, ancrée sur le territoire, avec un aspect social. L'idée du bar ici, c'était aussi de créer du lien entre les gens, que les gens se retrouvent en pleine campagne, dans un petit coin un peu perdu, sans grandes ambitions, sans vouloir être trop... forcément reconnu, pas forcément, mais en tout cas, voilà, on sait qu'on peut aller boire un verre, boire une bière locale, près de chez soi, sans aller en ville.
Et alors, quel type de bière est-ce que tu produis ici?
Du coup, il y en a vraiment pour tous les goûts. J'ai démarré avec 4 bières qui sont l'Envolée, l'Estime, l'Autre Monde et l'Herbe au Chat. Donc c'est des bières de style vraiment très différent. Moi je les caractérise pas trop par leur robe, par leur couleur. Souvent les gens disent ah, moi j'aime bien les bières ambrées ou moi j'aime bien les bières blanches. Mais en fait on peut avoir des bières ambrées vraiment très très différentes. Donc je vais plus leur donner des styles qui sont en rapport avec leur nationalité d'origine. L'Envolée c'est plus une bière de blé d'origine belge. Donc là on a beaucoup de malt de blé parce qu'on peut utiliser du malt d'orge mais on peut utiliser aussi du malt de blé. Là-dedans, en fait, il est, le malt de blé vient de l'extérieur. Il est en bio aussi, mais il n'est pas produit sur place. Parce que ça demande beaucoup trop de volume à envoyer en malturie pour faire le blé. Donc, pour l'instant, je l'achète. C'est une bière douce, une bière fruitée. C'est les levures qui lui donnent sa personnalité. Une bière donc à 6 degrés. Après, j'ai l'Estime, qui est une lager. Là, c'est une bière de fermentation basse. Son origine, c'est les Allemands hein, qui ont inventé ce style de bière dès lors qu'ils ont su maîtriser le froid. Donc, c'est des bières qui sont fermentées en dessous de 13 degrés. Ça, c'est les fermentations basses. Donc, c'est des fermentations plus longues. Où là, on met en avant le malt, le goût vraiment des céréales. Donc, c'est tout l'intérêt des bières, des lagers, on les appelle. Après, j'ai l'Autre Monde, qui est une bière à fermentation haute. Donc là, vraiment typé bière du Nord ou bière belge. Là, c'est des bières qui sont fermentées au-dessus de 20 degrés. Donc, les fermentations sont plus courtes et les levures s'expriment beaucoup plus. Donc là, comme un peu l'envolée, on est sur une bière à profil vraiment... les profils aromatiques sont vraiment liés aux levures. Voilà, elle est à 8 degrés, donc c'est une bière plutôt forte. Et la quatrième, donc, avec laquelle j'ai démarré, l'Herbocha, qui est une IPA ou une IPA en français, qui veut dire Indian Pale Ale. Là, c'est plutôt un style anglais. Et là, c'est les houblons qui sont mis en avant. Donc, les Anglais avaient inventé ces bières-là lorsqu'ils envoyaient leur bière en Inde. Ils conservaient la bière sur le trajet en bateau grâce donc, aux houblons qui infusaient sur le trajet. Donc, en arrivant en Inde, la bière a été conservée. Par contre, elle était très, très amère. Donc ces styles de bière ont été remis au goût du jour il y a maintenant une quinzaine d'années par les Américains. Et donc c'est des bières qui sont très tendances aujourd'hui. Après voilà, j'ai une brune dans l'ombre, qui est la cousine de l'Herbocha, sur le même style, mais brassée avec un malt chocolat. La gamme Solstice, qui est une gamme de saison. La Solstice d'été, blonde à 5 degrés, très houblonnée, sans être une IPA. Et la Solstice d'hiver, plutôt ambrée, 7 degrés. Une bière chaleureuse d'intérieur, on va dire, une bière d'hiver, avec un peu d'épices pour rappeler les fêtes de Noël. Et puis, il y a des éphémères, deux éphémères.
Combien de temps est-ce que tu mets pour valider une recette définitivement? J'imagine qu'il y a des phases de test.
Oui, dans l'idéal, c'est de tester les recettes avant, pendant plusieurs mois. Après, il faut oser, et je crois que je suis un aventurier, j'aime bien me dire « Allez, c'est ça que je veux faire depuis un moment. J'ai pas encore utilisé ce houblon, j'ai pas encore utilisé ces levures. Je vais faire un essai, et puis allons-y. » Après, je me laisse guider par mes envies, la disponibilité en houblon bio, et puis ce que j'ai pas encore exploré, quoi, voilà.
Donc la brasserie, tu l'as vraiment lancée en 2020. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute, de re-questionnement, des moments un peu plus compliqués, ou est-ce que ça a été fluide dès le début finalement?
Ça n'a pas été fluide dès le début. Bah, la difficulté, c'était le pari de réussir à monter une brasserie et puis de se faire connaître, que les bières soient bonnes. Enfin, c'est vraiment le montage d'un projet. Dans toute sa splendeur, il y a beaucoup d'inconnus. Donc, j'ai démarré en plein milieu d'année, donc j'avais 6 mois, on va dire, j'ai eu 6 mois de premier exercice, en plein Covid, où les gens ne pouvaient pas se réunir. Donc non, c'était vraiment, c'était pas le bon moment pour une brasserie. Après, je partais de zéro de toute façon, donc je dirais après, le défi, ça a été de trouver l'équilibre entre mon travail agricole et puis de brasserie, qui sont deux mondes totalement différents. Réussir à être sur les deux plans, tout faire à peu près bien. Ça, c'était difficile. Heureusement, je suis aidé par un salarié à mi-temps, Alain, qui m'aide tous les jours. Et puis mon papa qui est aussi présent, et ma maman, il m'aide aussi sur d'autres aspects. Mais du coup, voilà, c'était de réussir à trouver l'équilibre. Je commence à le trouver tout juste après 5 ans. Donc voilà, l'enjeu, il est toujours là. C'est la charge de travail. Réussir à tout mener seul, c'est pas simple. Puis après, bah, il y avait l'infrastructure au début qui convenait pas par rapport à la quantité de bière produite. Il fallait plus grand, et donc fallait au début faire avec ce que j'avais, et donc fallait faire ses preuves auprès de la banque pour pouvoir agrandir et avoir de l'espace, quoi.
Quand tu parles de réussir à te faire connaître, donc une fois que tu as créé la brasserie et le produit, il s'agit de proposer ce produit auprès des différents bars ou caves à bière du coin.
Comment ça s'est fait? J'ai démarché, mais je l'ai ôté aussi. On m'a aussi démarché. Ça s'est fait avec le temps. Hein. Rome, c'est pas fait en un jour. J'ai démarré avec le Temple Mousse à Laval, donc tenu par Miguel, qui représente bien les bières locales du département. Donc ça a été un de mes premiers partenaires. Après, je suis bien impliqué, enfin ancré dans les biocopes, toutes les biocopes du département. Ça m'a beaucoup aidé. Et c'est une chaîne que j'affectionne vraiment particulièrement, parce qu'ils représentent mes valeurs. Il y a eu des commerces comme la l'épicerie de Fontaine Daniel qui sont des endroits clés pour moi. Et puis, après, très vite, il y a eu aussi Gaston et compagnie à Mayenne, qui est un vrai partenaire avec lequel on fait du bon travail. Et maintenant, il y a des exclusivités qui se font, des bières qui sont produites uniquement pour là-bas, en fût, hein, je te parle. Voilà, donc, en fait, les choses se font à la fois au feeling, et puis toute seule, et puis des fois, faut aller chercher un petit peu. Mais je trouve que j'ai quand même encore eu la chance d'ouvrir à un moment donné où la bière était dans un bon essor de développement. Là, on a atteint un plateau, c'est différent maintenant. Mais on était encore en progression il y a 5 ans. Quoi.
À la brasserie, dans l'arborescence, chaque geste, chaque ingrédient, chaque choix participe à une vision. Celle d'une bière artisanale qui a du sens, ancrée dans un savoir-faire respectueux et engagé. Mais comment ces idées prennent-elles vie dans une bouteille? Derrière chaque brassin, il y a un processus précis, des étapes incontournables, une alchimie qui transforme de simples ingrédients en une bière unique. Demain, nous plongerons dans les secrets de fabrication pour le 3e et dernier épisode de notre série. Il y a des moments où tout bascule et il n'y a pas d'histoire qu'il ne puisse pas nous raconter encore aujourd'hui. Il le fait à sa façon, bien sûr. Donatien est notre chroniqueur du jour. C'est à toi.
Au départ, je voulais un peu faire une chronique nostalgique, en fait, j'ai glissé.
Le 27 janvier dernier, mené 2-0 à la 45e minute, le Paris Saint-Germain l'emporte finalement 4-2 sur le club de Manchester City. Ainsi, le Bayern de Munich, l'AS Monaco, le club de Liverpool, le Real Madrid ou encore le club de Barcelone sont des noms magiques qui font rêver tous les amateurs de football et qui sont connus pour avoir sur la pelouse effectué de brillantes remontadas. Remontada, un terme espagnol qui signifie remonter, un retour au score, synonyme de spectacle pour les supporters et de motivation pour les joueurs. La motivation, ce n'est pas ce qui manque à Donatien. Remonter contre l'administration souvent, le service public parfois, mais surtout contre lui-même toujours quand il s'agit de changer les choses. Remonter le château de cartes qu'un courant d'air fit s'écrouler. Remonter le réveil des matins de l'enfance, celui qui était surmonté de deux cloches dorées et d'un marteau. Remonter ses bretelles, remonter les escaliers jusqu'au 4e étage sans ascenseur pour récupérer une lettre oubliée. Remonter le moral d'un pote largué par sa meuf, pas facile ça, plus difficile encore que remonter le temps. Remonter le temps, c'est possible au cinéma. Cela devient possible dans la réalité. Remontant le temps, Donatien se souvient qu'enfant, sa mère l'envoyait à l'épicerie récupérer les consignes des bouteilles en verre jusqu'à la constitution d'un petit pécule de centimes et de francs permettant d'acquérir les pochettes Panini contenant des images de footballeurs à coller dans les albums. Et voici qu'en 2025, 25e jubilé du 21e siècle, c'est le retour des consignes. Bouteilles, récipients, plateaux, bocaux, sachets, flacons, on joue les prolongations, on offre aux emballages une seconde vie. Il ne faut pas confondre ces consignes avec les casiers où l'on dépose ses valises, ni avec les consignes de vote ou celles du mode d'emploi, ni avec les heures de consigne qu'on appelait retenues au collège ou heures de colle. S'installait pendant ces heures de colle où étaient consignés les trublions rebelles à l'éducation civique une ambiance particulière, presque une forme de sympathie entre le surveillant chargé de garder les cancres et les élèves tout à coup esselés, devenus sages en l'absence des rieurs. Les amuseurs, abandonnés par leur public, se métamorphosaient en collégiens studieux, soldant des opérations, résolvant des équations, dissertant sur la morale, versifiant leurs premiers émois amoureux ou rédigeant les exploits de leurs dernières vacances, dont cette fameuse remontada sur la plage, remontada gravée dans la mémoire et consignée, elle aussi, dans l'album des souvenirs.
Ces enfants qui ont souffert quand leur maman venait les voir, par une après-midi très claire sur les fauteuils du parloir qui aurait préféré peut-être pour ne pas avoir mal au cœur qu'elle ne vienne pas à cette heure troubler leur pauvre solitude. Ils se retrouvaient seuls le soir dans leur lit, dans le grand dortoir, et pensaient à elle en pleurant. Où es-tu donc, ô ma maman? Ils suçaient des sucres d'orge en caressant de leurs 10 doigts les bonbons et les chocolats qu'elle apportait dans sa panière. Ils sont des hommes maintenant, mais gardent au fond de leurs yeux si grands on ne sait quoi comme tristesse, un chagrin qui toujours reste. Leur maman s'en est allée, si peu de temps pour vous aimer, en nous tellement de regrets. Mon cœur est une pierre usée. Et ces années de pensionnat défilent par rang de trois sur les chemins de leur mémoire. Les timides, on leur en fait voir. Ils sont toujours écorchés vifs. Leur vie où la tendresse niche est bousculée par la détresse. Humilié, faut que tu te redresses. Les caporaux leur bottent les fesses, les pions juste changés de veste. Dans la chambrée, c'est tout pareil. L'enfer sur la terre, c'est réel. Si le dos est un peu voûté, il a appris à encaisser. Je t'en supplie, dis-moi deux mots. Souris-moi pour que je vive. Face le ciel qu'une dame au cœur tendre et diaphane, viens un soir dans ton dortoir pour t'aimer sans plus sursoir. Qu'elle t'apporte mieux que le Pérou de la tendresse par-dessus tout. Qu'elle soit un peu ta maman et ton ciel et ton firmament.
C'était le pensionnat de Julos Bocarn. Merci à Sébastien d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Donatien et puis merci à toi Maxime. Notre émission s'arrête, mais on peut parler de ce qui suit pour l'auditeur de l'autre radio.
Et oui, la soirée commence à 19h avec les rendez-vous de l'APES 53 pour une émission dédiée au service civique. Tiens, ça me dit quelque chose. Ils parleront des actions menées en Mayenne par l'association Unicité.
Ensuite, ça continue.
On rentre dans le monde du rap à 21h avec l'émission Frères de chaussures proposée par Fat Chou.
Merci Maxime. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'AJT du local. Nous irons un peu en Amérique avec la saison culturelle de Lerné et Guillaume Barriou qui nous parle de différentes créations qu'il nous propose du 5 au 9 février autour de son spectacle Airstream. Soyez au rendez-vous, ça vaut vraiment le coup. D'ici là, laissez-vous encore surprendre, même juste un peu, un détail, une rencontre, une idée. On ne sait jamais ce qu'une journée nous réserve. Et puis aussi, s'il vous plaît, faites-le bien.
Bon, c'est fini.
Tout de même, ça passe vite.